Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, comme promis, nous prolongerons notre débat d'hier. Vous pourrez de nouveau commenter la campagne électorale aux États-Unis. Nous sommes, vous le savez, à 26 jours de l'élection présidentielle. Barack Obama creuse l'écart dans les sondages, il est en tête dans les intentions de vote. Et dans certains États décisifs, le candidat démocrate dispose même d'une confortable avance. C'est le cas notamment dans le Michigan, où il bénéficie de 10 points d'avance sur McCain. D'ailleurs, dans cet État, le candidat républicain a préféré annuler toutes les rencontres électorales et retirer même son personnel de campagne. C'est dire donc que, en tout cas pour le Michigan, les jeux semblent faits. Alors comment expliquez-vous finalement cette percée de Barack Obama? Quelle image avez-vous des deux candidats? Vous nous rejoignez, vos commentaires, vos témoignages, je sais que vous êtes quelques-uns à nous écouter à cette heure-ci sur le continent nord-américain. Faites comme hier, appelez-nous 33 1 53 92 64 40 01 53 92 64 40 si vous nous appelez de la région parisienne. Nous allons tout de suite passer au standard avec vos questions à la rédaction. Hein. Vous connaissez le principe, vous nous appelez pour nous demander des compléments d'information, des repères pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que vous entendez sur l'antenne des RFI. Vous pouvez nous appeler tout au long de la journée. Hein. Sachez que le standard reste ouvert, 01 53 92 64 40. Et ce matin, comme plusieurs fois dans la semaine, on n'y échappe pas. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur cette campagne électorale aux États-Unis. Ulrich, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Porto Novo, au Bénin. Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions, Ulrich?
Bien sûr. Donc Juan, il y a quelques jours, la policière du candidat républicain Sarah Palin a accusé le candidat démocrate Barack Obama de copiner avec des terroristes en faisant allusion à Bill Ayers. Mm-hmm. Alors, qui est Bill Ayers?
Ah, qui est Bill Ayers? C'est une bonne question. Sylvain Piville, bonjour.
Bonjour.
Alors effectivement, ça a surpris, choqué même quelques-uns. Sarah Palin s'en est directement prise à Barack Obama en disant effectivement que ce dernier copinait avec des terroristes qui prennent pour cible leur pays. Alors tout d'un coup, ça a pu faire peur à certains qui ne connaissent pas effectivement Bill Ayers, qui aujourd'hui est prof, hein, il enseigne à l'université, mais il a un passé assez mouvementé. Hein.
Alors oui, c'est l'un des fondateurs, Bill Ayers, d'un mouvement activiste d'extrême gauche dans les années 60. Il y a une véritable guerre idéologique aux États-Unis dans les années 60 qui tourne autour de la guerre du Vietnam, et ce mouvement Weather Underground est un mouvement qui a pratiqué le terrorisme, on peut le dire, puisque plusieurs bombes ont été déposées au nom de ce groupe devant des bâtiments publics, dont notamment l'un devant le Parlement américain. Il y a eu plusieurs attentats donc signés par ce Weather Underground. En 1974, Bill Ayers, qui en a été l'un des fondateurs, a bénéficié d'un non-lieu dans la justice. Il est donc à ce moment-là sorti de la clandestinité, et depuis on peut dire qu'il a été réhabilité, puisque vous le disiez, il est aujourd'hui professeur d'éducation à l'université de Chicago avec pignon sur rue. Il a publié une quinzaine de livres. Il est régulièrement consulté sur les questions d'éducation par les autorités locales.
Il a même été, je crois, de l'Illinois, conseiller du maire de Chicago.
Effectivement, le maire de Chicago et d'autres instances l'ont régulièrement consulté sur les questions d'éducation. Alors, ses liens avec Barack Obama. C'est d'abord Chicago. Il se trouve qu'ils vivent dans le même quartier de Hyde Park Corner, ça s'appelle, à Chicago. En 1995, quand Barack Obama a lancé sa campagne pour devenir sénateur local de l'État de l'Illinois, eh bien, il a organisé plusieurs réunions publiques chez les uns, chez les autres. Et c'est vrai qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue chez Bill Ayers. Bill Ayers a offert un café à plusieurs personnes susceptibles de soutenir cette candidature Barack Obama. C'est ce qui a fait dire à Sarah Palin que la carrière politique de Barack Obama avait commencé dans la cuisine d'un terroriste. C'est vrai que le raccourci est peut-être un peu saisissant. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont siégé dans plusieurs conseils d'administration sur les questions d'éducation, justement. Mais une enquête assez approfondie publiée par le New York Times samedi dernier aboutit à la conclusion que c'est vrai que ce sont des connaissances, mais ils n'ont jamais été véritablement proches. Depuis 2002, ils ne se sont quasiment plus jamais vus. Barack Obama, lui, quand on lui parle de Bill Ayers, s'explique très directement. C'est quelqu'un qui a participé à des actions détestables il y a 40 ans, quand j'avais 8 ans.
Ouais. Ulrich, vous aviez d'autres questions?
Oui. Et pourquoi serait-elle une telle accusation en le traitant alors de terroriste?
Ah, bonne question là aussi, effectivement. Pourquoi Sarah Palin se met tout d'un coup à parler de Bill Ayers?
Alors bon, c'est un sujet qui traîne dans la campagne depuis longtemps. C'est vrai que là, il est mis sur le devant de la scène parce qu'il y a une stratégie en fait délibérée depuis quelques jours, Ulrich, de la part des Républicains, de tenter de détourner l'attention. C'est vrai que les conseillers de John McCain admettent en privé que si l'élection se joue sur les questions économiques, et c'est ce qui est en ce moment au cœur de l'élection, eh bien, John McCain va perdre. Et donc, c'est Sarah Palin, vous savez, qui se surnomme elle-même Pitbull avec du rouge à lèvres, eh bien c'est Sarah Palin qui est envoyée au créneau, c'est elle qui attaque sur Bill Ayers, c'est elle qui dit aussi qu'il faut remettre sur le tapis l'histoire du pasteur noir de Barack Obama, le révérend Wright, qui a complètement disparu de la circulation. Vous savez qu'il avait eu des propos très controversés dans plusieurs de ses sermons considérés comme anti-américains, anti-patriotiques. Donc les Républicains veulent faire de cette élection, veulent tenter de faire de cette élection un référendum sur Barack Obama, le présenter comme quelqu'un de peu regardant sur ses relations, qui n'est pas capable de bien apprécier les personnes qu'il va fréquenter. Bon, les démocrates de leur côté ont contre-attaqué
aussi.
Chose,
oui.
Voilà, en relançant une vieille polémique sur les relations de John McCain avec un homme d'affaires véreux dans l'Arizona, une affaire pour laquelle John McCain a fait amende honorable depuis très longtemps.
Ouais. Voilà, Ulrich, pour les explications de Sylvain Biville. On vous souhaite une bonne journée à Porto Novo. Merci de nous écouter au Bénin. Cephas, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le vérité des récits.
Vous êtes à Kinshasa.
J'ai une petite question sur la... Oui. J'ai une petite question sur les présidentielles américaines. Mm-hmm. Alors, je voudrais savoir quel est exactement le rôle du vice-président américain. Et surtout étant donné qu'il ne se manifeste pas dans la vie publique de la gestion de la politique américaine, je me demande finalement si cette fonction n'est pas une fonction honorifique.
Ah, Sylvain Biville, c'est vrai que c'était le cas il y a quelques années, il y a très très longtemps. Hein.
Ça a changé, c'est
ça
vrai,
c'est pas ça.
On ne peut pas dire aujourd'hui que le vice-président n'a pas de rôle. Vous savez que Dick Cheney, qui est l'actuel vice-président de George Bush, joue un rôle central dans la définition de la politique de la Maison-Blanche. Alors revenons à la Constitution, c'est vrai que tel que défini dans la Constitution, le rôle du vice-président est assez limité. Il préside le Sénat, et c'est en ça que c'est un rôle plutôt honorifique, puisque en fait il vient présider les sessions au Sénat, uniquement en cas d'égalité absolue dans les voix au Sénat. Il peut avoir une voix prépondérante en cas de vote très serré sur un texte. Et puis surtout, l'autre rôle qui lui est défini, c'est qu'il succède au président en cas d'incapacité. Ça, c'est donc beaucoup moins honorifique. On a coutume de dire que le vice-président est à un battement de cœur de la présidence. C'est vrai que ça a une importance particulière dans cette élection. John McCain a 72 ans. S'il est élu, ce serait la personnalité la plus âgée à entrer à la Maison-Blanche.
Et en cas de vacances de pouvoir, ce serait Sarah Palin à ce moment-là.
Voilà, et de fait, effectivement, ce serait Sarah Palin. Et dans l'histoire, il n'est pas rare de voir le vice-président finir le mandat du président qui a été élu. Ça a été le cas avec Kennedy assassiné, ça a été le cas avec Nixon quand il a démissionné après l'affaire du Watergate. On a longtemps dit, en fait, que la principale activité du vice-président, c'était de se lever tous les matins et de demander des nouvelles de l'état de santé du président. Mmh. Mais ça a beaucoup changé. On va parler de l'exemple Cheney, parce que c'est vrai que Dick Cheney, l'actuel vice-président, il a tenu un rôle comme jamais les vice-présidents n'en ont eu. La guerre en Irak, c'est lui. Le concept de guerre préventive, c'est lui. La gestion du pays après le 11 septembre, c'est lui, quand le président avait été mis au vert en cas de nouvelle attaque contre les États-Unis. Et d'ailleurs, ça va être difficile de remiser le vice-président au placard. Et d'ailleurs, aussi bien Sarah Palin que Joe Biden ont donné un aperçu de quel type de vice-président ils voulaient être. Sarah Palin a dit qu'elle voulait être en charge des questions d'énergie, de réforme, de gouvernance et de famille, comme une sorte de super-ministre. Joe Biden, lui, a expliqué qu'il ne voulait pas de portefeuille, mais qu'il voulait avoir un rôle de conseiller principal du président. Il veut être présent à ses côtés, assis à la table au moment de la prise de toutes les décisions importantes. Donc ça va être...
Donc ça veut dire que l'influence finalement du vice-président dépend surtout de sa personnalité.
Voilà.
Et de ses relations évidemment avec le président.
Et de l'histoire. C'est vrai que le rôle a beaucoup évolué ces derniers temps. Ça va être en tout cas passionnant de voir quel type de vice-président seront soit Sarah Palin, soit Joe Biden. Il faut tout de même cependant relativiser le rôle des vice-présidents pendant la campagne. Il y a eu le débat sur la vice-présidence entre les vice-présidents la semaine dernière.
Oui.
Mais sinon, c'est vrai qu'ils jouent un rôle relativement marginal. Regardez, avant-hier, Barack Obama et John McCain, lors de leur deuxième débat télévisé, n'ont même pas cité une seule fois leur colissier.
Merci beaucoup Sylvain Biville d'être passé dans ce studio. Bonne journée Céphas, merci d'avoir appelé de Kinshasa. Sylvain, vous reviendrez évidemment, j'imagine, avec plaisir dans les prochains
avec
jours.
Plaisir.
Car les questions sur la campagne électorale ne manquent pas au standard. Campagne électorale à suivre évidemment sur les antennes de RFI, mais aussi sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. À votre disposition chaque semaine un podcast radio, une émission spécialement conçue, fabriquée pour Internet.
Ça s'appelle Objectif. Objectif Maison Blanche, et c'est tous les mardis.
Voilà, merci beaucoup Sylvain. Vos commentaires, vos réflexions sur la campagne électorale, ce sera dans une vingtaine de minutes. 01 53 92 64 40. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre. D'autres questions, Abou est avec nous. Bonjour Abou.
Bonjour Monsieur Wan.
Bienvenue, vous nous appelez de Ouagadougou, Burkina Faso.
En effet, oui.
Voilà, vous avez des questions sur Reporters sans frontières.
Tout à fait. Alors, il y a quelques jours, j'ai écouté le nouveau secrétaire de RFI. Mm-hmm. Alors, d'abord, je ne savais pas que M. Ménard avait été remplacé à la tête de ce mouvement-là. Mm-hmm. Alors, M. Ménard, c'est quelqu'un que nous, on a connu, notamment au Burkina, en 98, lors de l'assassinat de Norbert Zongo. Mm-hmm. Il était également engagé en Côte d'Ivoire dans la disparition de Guy-André Kiefer. Alors, heureusement qu'on vient d'apprendre depuis hier que Moussa Kaka est libéré. Ouais. C'était aussi son combat. Alors, ce monsieur s'en va, dans tous les cas, c'est bien, c'est une alternance démocratique. Alors, mes questions sont les suivantes. La première, j'aimerais connaître beaucoup plus son successeur. Qui est-il? Mm-hmm. Alors, quelle fonction il occupait au sein du mouvement avant d'être à la tête de RSF? Mm-hmm. Ça, c'est ma première question.
Très bien. Bah, alors, reste en ligne. Qui de mieux placé, finalement, que le nouveau secrétaire général de RSF pour vous répondre? Bonjour, Jean-François Julliard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci de nous accorder quelques minutes. C'est vrai que le grand public ne vous connaît pas. Vous incarnez d'une certaine façon la nouvelle génération, puisque vous avez 35 ans, c'est bien ça?
C'est ça, hein, tout à fait.
Vous travaillez à RSF depuis 10 ans.
Oui, tout à fait. Donc pour rassurer cet auditeur, moi je connais bien l'Afrique, puisque à l'époque où effectivement Robert Ménard travaillait beaucoup sur le Burkina, sur la Côte d'Ivoire, j'étais avec lui, puisque moi j'étais responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Donc ces dossiers-là me tiennent à cœur tout particulièrement aussi, que ce soit l'affaire Zongo ou la disparition de Guy-André Kiefer. Et sur le Burkina plus spécifiquement, moi je vais me rendre au Burkina Faso à la fin de l'année, là, le 13 décembre, pour le commémorer le 10e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo.
Ouais, donc ça fait 10 ans que vous êtes à RSF, vous aviez donc à l'époque 25 ans. Juste pour comprendre un peu vos motivations, à 25 ans, vous avez votre diplôme de journaliste. Qu'est-ce qui vous pousse plutôt à rejoindre RSF plutôt que de travailler au sein d'une rédaction, on va dire, classique?
L'engagement, je crois que j'étais bien entendu attiré par le journalisme au sens plus classique du terme, mais c'est vrai que j'ai croisé Robert Ménard à l'occasion d'une conférence à l'université, et le mélange entre le journalisme et le militantisme, ce travail un peu particulier, m'a tout de suite séduit. C'est vrai que l'engagement, l'action auprès d'une organisation de défense des droits de l'homme m'a effectivement attiré, et ensuite j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, particulièrement utile, donc j'ai décidé de rester à Reporters sans frontières.
Ouais. Abou, vous avez dit que c'était votre première question, ça veut dire que vous en avez d'autres?
Oui, j'en ai une seconde qui a en partie été abordée, mais néanmoins je la pose quand même.
Ouais.
Et le dossier Guy-André Kiefer est toujours en instance. Celui de Novel Zongo a été classé non-lieu. Mmh. Alors, quelles sont les prochaines luttes? Quelles sont les luttes à mener par le nouveau secrétaire général?
Alors, vous avez dit, Jean-François Julliard, dans ce studio, vous étiez l'invité de la rédaction il y a quelques jours, que l'Afrique restait encore une priorité, une de vos préoccupations premières, avez-vous dit?
Oui, tout à fait. Non seulement parce que la situation est urgente, parce que la situation le nécessite, il reste beaucoup de cas de violation de la liberté de la presse en Afrique. Sur Zongo, on vient d'en parler. Sur Guy-André Kiefer, on a encore été reçu par le juge en charge de l'affaire en France avec la famille de Guy-André pour essayer de connaître un petit peu mieux la vérité sur ce qui s'est passé au moment de l'enlèvement de Guy-André Kiefer. Et puis sur l'Afrique généralement, là, alors c'est pas moi qui vais cette fois, mais on va envoyer quelqu'un de Reporters sans frontières en Éthiopie, à Djibouti. On pense se rendre au Zimbabwe rapidement. Donc on n'oublie pas du tout l'Afrique. En tout cas, ce n'est pas parce que Robert a quitté Reporters sans frontières qu'on va cesser de s'occuper de ces dossiers qui ont un peu accompagné l'histoire de Reporters sans frontières. Je crois que le dossier Zongo, c'est vraiment un des dossiers les plus importants qu'a eu à traiter Reporters sans frontières. Donc on ne va pas oublier comme ça ces journalistes qui ont besoin de nous. Non.
Merci Jean-François Julliard. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous. Abou, bonne journée à Ouagadougou. Bonne journée sur place. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter à Ouaga et à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Merci à tous de votre fidélité. Il nous reste encore 5 petites minutes. Nous accueillons Mamadou. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur l'antenne. Vous êtes à Bamako, au Mali. Nous allons parler football et vous avez été plusieurs à nous appeler pour nous poser exactement la même question. Donc, d'une certaine façon, Mamadou, vous allez vous faire le porte-parole de tous ces auditeurs. Vous avez des questions concernant les éliminatoires combinés de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde 2010.
Bien, bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Donc, effectivement, le samedi prochain, les Aigles du Mali rencontrent le Tchad dans l'éliminatoire combiné Coupe d'Afrique et Coupe du Monde à Bamako. Nous savons que le Tchad est disqualifié à la Coupe d'Afrique, donc un cas particulier pour le Mali. Ma question est celle-là. Quelles sont les chances de qualification du Mali à la Coupe si le Mali gagne samedi contre le Tchad? On sait que le dernier match du Mali, effectivement, c'est le samedi contre le Tchad.
Effectivement. Alors, c'est un peu compliqué pour ceux qui ne suivent pas, évidemment, de très près ces éliminatoires combinés. Frédéric Futot, bonjour.
Bonjour. C'est aussi compliqué pour ceux qui suivent ça de très près.
Ben oui, parce que là, il y a un bras de fer en plus. On va peut-être pas rentrer dans le détail, je ne sais pas, mais entre la FIFA, la Confédération africaine de football, pour comprendre un peu les enjeux de ce match Tchad-Mali, il faut quand même rappeler que le Tchad, effectivement, a été suspendu par la Confédération africaine de football. C'est-à-dire que le Tchad ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà, quand vous regardez le classement établi par la Confédération africaine de football du groupe 10 des éliminatoires, le Tchad n'y figure pas. En revanche, quand vous allez sur le site de la FIFA, hein, ce sont des éliminatoires jumelés, on ne joue qu'une fois les matchs. Vous allez sur le site de la FIFA, là, le Tchad figure dans le classement, avec les résultats obtenus contre les autres équipes du groupe, le Mali, le Congo, le Soudan. On a donc deux classements différents au jour d'aujourd'hui. Hein, tout est parti du refus du Tchad d'aller jouer à Khartoum, face au Soudan.
Pour des raisons de sécurité.
Pour des raisons de sécurité. La CAF avait estimé que les raisons invoquées par les Tchadiens n'étaient pas suffisantes, donc elle a exclu les Tchadiens des éliminatoires. La FIFA, en revanche, avait suspendu provisoirement les Tchadiens avant de les réintégrer. Le Tchad a donc joué début septembre ses deux matchs face au Soudan sur terrain neutre, au Caire. Et nous avons eu Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football. Je l'ai appelé il y a quelques minutes là, avant d'entrer en studio. Il nous confirme bien que la CAF, elle, n'a pas réintégré le Tchad dans les éliminatoires. On a donc deux classements et on pourrait avoir une situation complètement ubuesque dimanche soir, à savoir, pour répondre à notre auditeur, que si les Maliens battent les Tchadiens samedi à Bamako, ils pourraient terminer premier du groupe et donc être qualifiés pour la suite des éliminatoires Coupe du Monde, mais n'être que deuxième du groupe concernant les éliminatoires de la CAN.
Hein? Et donc s'ils sont deuxièmes, ils ne
sont
pas qualifiés
deuxième,
alors.
S'ils sont deuxièmes, et bien là il va falloir voir avec les autres groupes s'ils font partie des meilleurs deuxièmes, puisque sur les 12 groupes, on prendra les 8 meilleurs deuxièmes. Et on a regardé ce matin avec notre correspondant Mamadou Kaloga à Bamako, les Maliens ne sont pas certains de faire partie des meilleurs deuxièmes. Il va falloir attendre les résultats de toutes les autres équipes. Donc au jour d'aujourd'hui... ils ont de bonnes chances de continuer l'aventure en Coupe du Monde. Pour ce qui est de la CAN 2010, c'est plus incertain, puisque les Congolais, eux, vont jouer au Soudan. Si le Congo fait match nul ou l'emporte au Soudan, le Congo, dans le classement CAN, passera devant les Maliens. Donc, bon, tout ça est un peu compliqué. Et Issa Hayatou, ce matin, là, nous disait, bon... On verra après les matchs du week-end, après le Mali-Tchad, on verra bien ce qu'il en sera. Hein, bon,
à suivre.
Ce serait quand même plus simple qu'on n'ait pas voilà, qui est le même classement quand même des deux côtés.
On aura l'occasion d'y revenir évidemment et de commenter la qualification ou pas du Mali. Mamadou, voilà ce qu'on peut vous dire, hein. C'est vrai que le dossier est complexe, je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser au football au Mali et à suivre évidemment de près les Aigles du Mali pour ce match décisif samedi prochain face au Tchad. Merci à tous, bonne journée, restez avec nous évidemment pour le point complet sur l'actualité. D'autres questions demain, quant à nous on se retrouve évidemment dans 10 minutes et nous parlerons